France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, les Club Kids. Au crépuscule des années 80, une poignée de jeunes gens excentriques prend d'assaut la nuit new-yorkaise. Leur nom, les Club Kids, un groupe d'homosexuels désargentés et rejetés de toutes parts, mais bien décidés à devenir célèbres. En particulier, leur chef de file, un gamin du Midwest nommé Michael Alig. En quelques années, la joyeuse bande va s'emparer des clubs les plus branchés New York, à coups de déguisements tapageurs, de maquillages grotesques et de soirées aux thèmes plus baroques, les uns que les autres, qui font les gros titres des journaux et leur ouvrent les portes des talk-shows. Mais la ville est gangrénée par le crime et la crasse. Les Club Kids eux-mêmes ne résistent pas à cette contamination. Et le 17 mars 1996, Michael Alig commet l'irréparable en assassinant l'un de ses camarades de fête avant de le démembrer et de jeter ses restes dans l'Hudson River. L'occasion rêvée pour Rudolph Giuliani, le nouveau maire républicain de New York, de renforcer sa politique répressive visant à aseptiser la ville. Notre invitée aujourd'hui est Pauline Bazin, journaliste indépendante, spécialiste des cultures LGBT et autrice du livre « Drag, un art queer qui agite le monde » aux éditions EPA. Affaires sensibles, une émission de France Inter, récit documentaire Colline Claveau-Mègevent, rédaction en chef Franck Cognard, chargée de programme Rebecca Donnante, réalisation Juliette Gou.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
The man who turned a soup can into art is
L'homme qui a transformé de la soupe en conserve, en œuvre d'art, est mort. Warhol, gourou du pop art, s'est éteint dans un hôpital de New York, au lendemain d'une opération de la vésicule biliaire. Le directeur du musée d'art moderne de New York décrit Warhol comme un artiste sérieux qui faisait semblant de ne pas l'être. Il ajoute que ses peintures étaient comme une prairie au centre de Manhattan.
Premier avril 1987. Ce jour-là, le parvis de l'église Saint-Patrick, blotti au milieu des tours de verre de Manhattan, est noir de monde. Plus de 3000 personnes sont venues assister à la messe en hommage à Andy Warhol, pape du pop art et fervent catholique, mort 2 mois plus tôt. Il y a là de jeunes branchés aux cheveux fluo, tandis que les célébrités s'extirpent de leur limousine, lunettes noires et mines affligées de circonstances. Liza Minnelli, Raquel Welch, Bianca Jagger ou encore Calvin Klein sont venus saluer la mémoire de celui qui a incarné la quintessence de New York, sa créativité, son audace, mais aussi sa boulimie d'argent. Avec Warhol, c'est un peu de la ville qui meurt, et surtout de sa nuit. Car l'artiste était de toutes les fêtes, notamment au Studio 54, célèbre club qui accueillait le gratin des 70s, tandis que des centaines d'inconnus faisaient le pied de grue à l'entrée. Mais Warhol disparu. Que reste-t-il des folles nuits new-yorkaises ? Rien, assène le journaliste Michael Musto, qui officie au très branché journal local de Village Voice. Dans ses colonnes, il décrète même la mort de Downtown, le quartier des boîtes de nuit qui se vide à partir des années 80 au profit de bars miteux et autres lieux interlopes. En vérité, c'est toute la ville qui est mal en point, comme le racontent d'anciens Club Kids dans le documentaire Glory Days consacré à Michael Alig.
Quand tu marchais dans la rue, tu sentais les fioles de crack se briser sous tes pieds.
Aller au-delà de la 8e avenue, laisse tomber. C'était une zone de guerre, il n'y avait aucune lumière. C'était dingue.
Times Square était assez crade à l'époque, on n'allait pas vraiment à Times Square.
Il y avait des prostituées partout qui portaient des fringues, mais complètement délire, ou qui se baladaient à moitié à poil.
Des proxénètes, des dealers, des gens qui se faisaient voler ou poignarder, des pipes chauds partout, des clubs de striptease. C'était Sodome et Gomorre.
Au milieu de ce marasme se développe une scène underground bouillonnante, dont les figures de proue se nomment Jean-Michel Basquiat et Keith Haring. Malheureusement, les jeunes artistes homosexuels font face à un mal que personne ne sait guérir, l'épidémie de sida. Aux États-Unis, le nombre de malades passe de 20 000 en 81 à 130 000 en 85. C'est dans cette ambiance crépusculaire qu'un jeune homme nommé Michael Alig pose ses valises à New York. Il a 18 ans, il vient de quitter le pavillon familial de South Bend dans l'Indiana. Oh, pas un troupeau, mais non, une petite ville ouvrière où être soi-même n'a rien d'évident. Bon élève, le jeune homme a été admis dans plusieurs universités du pays, mais il choisit Fordham, au nord de New York. À ses yeux, les boîtes de nuit de la ville représentent un Eldorado, l'endroit où il sera enfin accepté. Il se trouve que Michael a été harcelé à l'école, car jugé trop sensible, un peu étrange. Il est notamment obsédé par les films d'horreur, en particulier Blood Feast, Orgie sanglante en français. Considéré comme le premier film gore de l'histoire du cinéma, Blood Feast raconte le meurtre d'une jeune femme qui finit découpée dans sa baignoire. Une précision qui aura son importance pour la suite des événements. Mais pour sa mère, Michael Alig est avant tout un petit garçon plein de vie, toujours à la recherche d'une nouvelle combine. Elle raconte dans le documentaire Party Monster de Shockumentary.
Michael a toujours été un petit filou. Chaque soir, il sortait une petite boîte à chaussures et on allait chez Aldi, le supermarché le moins cher de la ville, et on achetait 20 barres chocolatées. Puis on remplissait la boîte, on collait des petites étiquettes de prix et lui, il les revendait en se faisant une marge de 200%. Par exemple, si on achetait 5 barres pour $1, il les vendait $1 pièce, quelque chose comme ça. À l'école, son surnom est devenu Michael le confiseur. Pour le bal de promo, il s'est acheté son propre costume et il est allé avec une très gentille fille. C'est triste, parce que Michael faisait semblant pour moi, pour me faire plaisir. Il emmenait une jeune fille bien au bal. Je ne savais rien du mode de vie de Michael. Je n'ai découvert qu'à la fac qu'il était gay.
Oui, Michael préfère les garçons, mais il n'a encore jamais eu de petite amie. C'est à New York qu'il rencontre George Lopez, un jeune et beau latino dont il tombe amoureux. George rêve de devenir DJ, Michael d'être célèbre. Mais par où commencer quand on est personne? Eh bien par le bas de l'échelle, pardi. Les deux amants décrochent un job de serveur dans un club avant-gardiste du quartier de Midtown, baptisé la Danceteria. L'endroit ne paie pas de mine. Un couloir couvert de graffitis mène à une salle aveugle, flanquée de tables poisseuses et d'une scène où se produisent de jeunes artistes. Donc rien de glamour. Et pourtant, à la Danceteria, on croise Mick Jagger et Freddie Mercury un verre à la main parmi une foule bigarrée. Des punks, des mannequins, des drag queens. Habitués aussi les rappeurs de Run DMC ou des Beastie Boys, ainsi que les tout jeunes Cyndi Lauper et Madonna. Au milieu de cette foule éclectique, Michael Alig n'est pas franchement impliqué dans le nettoyage des tables. Plutôt que de travailler, le jeune homme observe, note, absorbe tout à la façon d'une éponge. Avec un objectif en tête, comme le raconte le patron des lieux, un immigré allemand nommé Rudolf Pieper.
Dans mon bureau de la Danceteria, je recevais tout un tas de gens qui venaient me montrer leurs numéros. Des groupes de musique, des trucs complètement barrés, comme la performeuse Lady Hennessy Brown, qui faisait jaillir du lait de ses seins. Ou les gars de Missing Foundation, un groupe de cinglés sadomasochistes qui se roulaient nus sur du fil barbelé, ou des trucs comme ça. Et Michael Alig faisait partie de ces gens-là.
L'idée d'Alig, la soirée des insultes. Le concept est simple. Les participants montent sur scène pour agonir l'audience d'injures et le plus odieux gagne la somme de $100. Élégant. Mais dans un New York décadent et blasé, l'événement est un succès. Alors Alig s'enhardit et se met à sillonner le quartier de Downtown, un paquet de flyers à la main, pour promouvoir ses futures soirées. À l'époque, pas d'internet pour diffuser la formation et se vendre. Mais le jeune homme peut compter sur son bagout. Le petit vendeur de confiserie de l'Indiana, qu'il était, n'est jamais loin. Mais Alig est avant tout un bosseur. Dans un monde de la nuit où l'alcool coule à flot et où on dort toute la journée, lui ne boit pas, ne se drogue pas et il travaille d'arrache-pied. Il a bien retenu ce qu'il a vu à la Danceteria, mais aussi ce qu'il a lu dans les magazines qui racontent la vie des célébutants, ces gosses de riches qui ont leurs entrées partout. Et puis il y a aussi Warhol, l'icône qui brille au-dessus de lui. Le pape du pop art avait promis qu'un jour, les gens de rien auraient droit à leur quart d'heure de célébrité. pour transformer cette prophétie en réalité, Alix s'entoure d'une douzaine d'artistes, maquilleurs, performeurs, drag queens, mannequins, physiques alternatifs, de préférence. Pour intégrer la bande, chacun doit prendre un pseudonyme un peu idiot, comme le jeu auquel ils vont participer. Le jeune artiste, Walt Cassidy, se transforme ainsi en Wallpaper, jeu de mots entre le prénom Walt et le terme Wallpaper, ce qui veut dire papier peint. Bien. Jenny Dembro, mannequin androgyne au crâne rasé, devient Genitalia, c'est-à-dire génital. Tandis que James Clark se transforme en James St. James. Et c'est le patron du club, le dénommé Piper, qui trouve un nom à cette bande de losers magnifiques, les Club Kids. Le journaliste Michael Musto se souvient.
Ladies and gentlemen, Manhattan Family Club Kids.
Michael started out as a kind of fun, rebellious person who wanted to shake.
Au début, Michael était ce garçon marrant, un peu rebelle, qui voulait secouer la bourgeoisie et ne jamais être ennuyé. Un type qui avait envie de cracher au visage de la culture de masse parce qu'elle était tellement barbante. Partout où je me tournais, il y avait Michael Ali qui organisait toutes ces fêtes complètement dingues avec ses Club Kids. Il était une sorte de joueur de flûte de Hamelin qui dirigeait ces petits personnages de contes de fées déglingués sur le point de devenir la nouvelle vague de la vie nocturne.
Impressionné par la détermination d'Alig, Rudolf Piper lui ouvre les portes de son nouvel établissement, le tunnel. L'endroit porte bien son nom. C'est un bâtiment industriel tout en longueur, au bord de l'Hudson River, avec des toilettes mixtes, une révolution à l'époque. Et deux cabines de DJ à chaque extrémité des pistes entières. Au sous-sol du tunnel, il règne une humidité à couper au couteau. C'est pourtant dans cet espace exigu que Michael Alig lance les soirées disco 2000, sorte de grand bazar sur fond disco, mais aussi de dance music, alors en plein essor. Mais la véritable attraction, ce sont les Club Kids, eux-mêmes, qui défilent dans des tenues fabriquées par leurs soins. Côté maquillage, la tendance est au visage entièrement fardé de blanc, aux sourcils graphiques, aux bouches XXL ou couverts de paillettes. Leurs références vont des clowns aux performeurs et provocateurs australiens Lee Barry, muse du peintre Lucian Freud, en passant par l'âge d'or d'Hollywood et bien sûr le pop art. Étrange syncrétisme tout de même. Chez les Club Kids, le glauque et le glamour se mélangent pour former une esthétique surprenante, unique mais pas gratuite, comme l'explique Michael Alig aux médias étudiants Alt.News.
Les Club Kids, c'est un mix de punk et de jeunes urbains branchés. Là où les punks s'habillaient comme des monstres et te balançaient « Qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça ?» Nous, on s'habillait comme des monstres et quand les gens nous regardaient, on leur demandait « File-nous 100 dollars ». On était un peu des punks monétisés, moins trash que des vrais punks, parce qu'on voulait être dans les magazines et ne pas faire trop flipper les gens. On voulait être un peu avant-gardiste, un peu beau, et pas aussi effrayant que les punks. Parce que c'était un business.
En 88, soit un an à peine après la mort de Warhol, les extravagances des Club Kids font la couverture du prestigieux New York Magazine. Michael Alig prend la pose, allure juvénile sur fond de néon rougeoyant. De quoi piquer la curiosité d'un certain Peter Gassien, un Canadien patibulaire qui arbore un patch noir sur son œil borgne. Mais Gassien est avant tout un homme puissant, surnommé le Club King, le roi des clubs, car il possède quatre établissements incontournables de la ville. Le joyau de sa couronne, c'est le Limelight, une boîte de nuit située dans une église gothique désaffectée de la 6e avenue. Le Mania a investi 5 millions de dollars pour transformer l'immense bâtisse en temple de la musique électronique. Pour le décorer, il a fait appel aux couturiers Jean-Paul Gaultier et Thierry Mugler pour un résultat hallucinant. Imaginez, pas moins de 5 escaliers partent de la nef principale et desservent 15 salles équipées de lasers et de fumigènes, capables d'accueillir jusqu'à 15 000 fêtards. Quand le Canadien confie les clés du Limelight à Michael Alig, le message est clair, les soirées disco 2000 vont changer de dimension. Et le gamin de l'Indiana relève le défi avec audace. Chaque mercredi soir, jusqu'à 5h du matin, il remplit l'établissement d'une foule bigarrée. Les Club Kids se souviennent.
Il devait y avoir 15 salles différentes. Une pour la house music, une pour la techno, une pour le goth metal, une pour le rock. Mais on ne faisait plus qu'un.
C'est aussi à cette période-là que la scène rave s'est peu à peu intégrée au monde de la nuit.
Il pouvait y avoir un nain, un travelot, un juif hassidique, un gay branché, un club kid, un rêveur, un gothique. Et on s'entendait tous.
Ça a juste explosé.
Une sorte de chaos positif.
Désormais, les Club Kids sont une attraction aussi incontournable que la Statue de la Liberté ou l'Empire State Building. Au Limelight, les touristes viennent voir les fêtards forniquer entre deux portes ou danser nus dans des cages. Clou du spectacle, lorsque la fête bat son plein, l'un des Club Kids enfile un costume de poule et traverse la nef à pleine vitesse, perché sur une balançoire géante accrochée au plafond. Mais gare à la chute, car la musique n'est pas le seul carburant des soirées disco 2000. Les dealers entrent et sortent librement de l'établissement. Ou pour 15 dollars, un barman vous sert un cocktail à base de champagne et de champignons hallucinogènes. Pour suivre le rythme effréné des soirées, Michael Alling, qui jusqu'ici était la sobriété incarnée, plonge dans la cocaïne. Puis il se met à la kétamine, à l'héroïne, enfin à tout ce qui lui passe sous son nez. Évidemment, son comportement devient erratique. Il lui arrive ainsi d'uriner discrètement dans les verres de ses convives, comme ça, juste pour la blague. Un soir, il se soulage même depuis un balcon sur une pauvre serveuse qui est licenciée pour avoir osé pleurer. Oui, vraiment, la fête organisée par des gens glauques tourne sérieusement au glauque. Écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, les Club Kids.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
Question. Comment rester dans l'air du temps quand on est la bande de jeunes la plus branchée de New York et qu'on organise, selon les adeptes, les meilleures soirées de la fin des années 80? Eh bien, c'est précisément le défi des Club Kids. Et particulièrement de leur jeune chef de meute, Michael Alling, qui se retrouve rattrapé par sa consommation de drogue et son désir d'aller toujours plus loin pour conserver son aura. Alors en 89, il a une nouvelle idée, les happenings sauvages, organisés grâce aux seules bouche à oreille. Et ça marche. Certains soirs, en plein cœur de New York, des centaines de jeunes déboulent dans une agence bancaire, une station de métro, un bus de ville ou un restaurant McDonald's. Là, les sales gosses sortent d'énormes radiocassettes et se mettent à danser frénétiquement jusqu'à l'arrivée de la police. Grisant. Souvent, les autorités déboulent avant même que la fête ne commence. Mais parfois, la magie opère et une bulle se crée autour de ces jeunes qui rejettent une société qui le leur rend bien. Car ils sont homo, marginaux, toxicaux, critiques du système ultra-capitaliste et des valeurs traditionnelles. Celles du président Reagan, puis de son successeur, George Bush Senior. Pour comprendre ce décalage profond entre deux Amériques, il faut allumer la télé qui s'empare du phénomène Club Kids au début des années 90. Pour les talk-shows racoleurs, quoi de mieux que de confronter ces jeunes gens costumés à un public médusé ? En 92, un animateur tend le micro à une ménagère de moins de 50 ans qui ne comprend rien au Club Kids qui peut se comprendre. Sur scène, deux jeunes hommes lui répondent, dont un Mike et la ligue très remontée.
Ma question s'adresse aux gens sur scène. Est-ce que tout votre cirque répond à un plan ou bien est-ce que vous vous êtes réveillé un matin en vous disant « Aujourd'hui, je veux ressembler à une bête de foire ».
Quand j'étais ado, je me sentais vraiment contraint, vraiment mal et j'en avais marre de tout. Et c'était horrible d'imaginer que j'allais passer le reste de ma vie à tenter de cocher les cases du rêve américain. Et puis quand j'ai vu dans les médias ce qu'il se passait à New York, et j'ai compris que je pouvais faire autre chose, devenir quelqu'un d'autre.
Et vous, est-ce que vous vous réveillez tous les jours comme un zombie en vous disant « J'ai envie de ressembler au mannequin du catalogue La Redoute » ?
Entre 90 et 93, les Club Kids écument les plateaux télé et ne cessent d'attirer de nouvelles recrues. Parmi elles, un certain André Menendez, un jeune d'origine colombienne qui rêve d'en être. Alors il invente son personnage. Il sera Angel, créature cintrée dans une combinaison de cuir noir et affublée d'une immense paire d'ailes blanches. Mais l'ange déchante vite, car les Club Kids cultivent désormais un certain entre-soi. Angel a beau faire, il reste un second couteau de la bande, un wannabe. Alors, pour se faire remarquer, autant que pour gagner sa croûte, il devient dealer. Son champ d'action, le Limelight, temple des soirées des Club Kids. À New York, l'héroïne et le crack font des ravages. En 93, le département de la santé de la ville enregistre plus de 1100 décès dus à la drogue. Quant à l'épidémie de sida, elle atteint son point culminant 3 ans plus tard. On pouvait danser toute une nuit avec un ami et le lendemain il était mort, se souvient Club Kid. C'est dans ce contexte mortifère que démocrates et républicains se jettent dans la bataille pour remporter la mairie de New York. Le sujet numéro 1, l'insécurité. Et celui qui en parle le mieux, c'est un homme de droite, évidemment. L'avocat et candidat républicain Rudolph Giuliani, qui se présente en sauveur de la ville. Le 2 novembre, il est élu avec 51% des voix et monte à la tribune pour rappeler ses objectifs.
J'ai vu des gens dans tous les quartiers de cette ville, dans toutes les communautés. Et si vous les regardez, si vous les écoutez, ils vous diront tous la même chose. Aidez-nous à réduire la criminalité. S'il vous plaît, aidez-nous. Aidez-nous à réduire le fléau de la drogue qui nous détruit. Voilà le cri du peuple. Quand les gens prononcent le mot de New York, je veux qu'ils pensent au meilleur, au gouvernement le plus courageux des États-Unis d'Amérique. Voilà ce que nous méritons. Et avant même que ce mandat se termine, toute la ville se joindra à nous, tandis que nous avancerons pour devenir une ville plus grande et meilleure. Et que Dieu vous bénisse.
L'une des premières cibles du maire Giuliani n'est autre que Peter Gassien. Tout le monde sait que la drogue circule librement dans ces boîtes de nuit. Les autorités ne pensent pas que Gassien laisse faire, non, mais il est un membre actif tout de même de ce juteux trafic. Alors Giuliani met en place une force spéciale composée de policiers anti-drogue, dont la mission est de mener des raids dans les bars et les boîtes de la ville. Ainsi, chaque nuit, des agents armés jusqu'aux dents embarquent clients comme dealers. Puis ils posent des verrous sur les portes des établissements. Les policiers contrôlent également les identités et les moindres faits et gestes des clients. Eh bien, malgré ce harcèlement, les Club Kids continuent tant bien que mal à faire la fête. Stupéfiant. En mai 95, Mike et la Ligue organisent au Limelight une soirée sur le thème de Blood Feast. Souvenez-vous, c'est ce film gore qui l'obsédait quand il était enfant, celui avec la jeune femme découpée dans une baignoire. Charmant. Sur l'affiche de l'événement, on voit le leader des Club Kids baignant dans une flaque de sang qui s'écoule de son crâne défoncé. Au-dessus de lui, toujours dans la poésie, la jeune mannequin Genitalia se délecte de son cerveau piqué au bout d'une fourchette. Au premier plan, repose un marteau sanguinolent. L'affiche promet une soirée répugnante, rythmée par des happenings et des DJ-sets. James St. James raconte cette soirée dans son livre Disco Bloodbath.
Je me suis retrouvé attaché à un brancard, couvert de foie cru et de morceaux de bœuf qui ont très vite pourri sous la chaleur des projecteurs. Il existe quelque part une cassette vidéo qui montre deux solides infirmiers qui me poussent sur la piste de danse, tandis que je cherche désespérément des toilettes assez grandes pour m'accueillir avec mon brancard, pour que je puisse m'y envoyer un rail de coke. Me voir vomir à cause de la viande en décomposition, tout ça en état de manque, constituait un spectacle pour le moins divertissant.
La magie des Club Kids s'est bel et bien envolée, remplacée par un tunnel de pratiques extrêmes. Michael Alig vit à l'époque dans un appartement de Midtown avec plusieurs colocataires, dont Freeze, un jeune dealer aux cheveux roses. Ensemble, ils passent des jours à se calmer sans sortir de chez eux. Le 17 mars 1997, Angel Melendez, l'aspirant Club Kids aux ailes d'ange, débarque dans l'appartement où il trouve les deux locataires totalement défoncés. Mais qu'importe, le jeune homme veut régler ses comptes. Michael Alig lui doit plus de $3,000 pour de la cocaïne et de l'ecstasy. Alors le ton monte. Alig propose de régler ses dettes plus tard, quand il sera redescendu. Mais le dealer refuse. Freeze s'adresse alors à Angel. Tu vois, c'est pour ça que personne ne t'aime. Sans la dope que tu nous fourgues, aucun de nous ne traînerait avec toi. Ces quelques mots plongent Angel dans une colère noire. Il se jette sur Michael Alig qui s'effondre contre une armoire vitrée. Un tesson de verre se loge dans son cou. Le sang gicle. Freeze intervient. C'est la cohue. Le chef des Club Kids raconte.
Je me souviens avoir pris un sweatshirt, l'avoir enroulé autour de ma main. Et je m'en suis servi pour le frapper à la tête et le repousser. Angel me mordait la main, la poitrine. Freeze a essayé de le retenir pendant que je tentais de le repousser. Freeze a attrapé un marteau et il a tapé deux ou trois fois. Finalement, Angel a arrêté de me mordre et il est tombé en arrière. À ce moment-là, Freeze et moi sommes montés sur lui à califourchon. On a tout essayé pour le ranimer. On a fini par le plonger dans une baignoire pleine d'eau. Et quand il n'a pas cherché à reprendre de l'air, il nous a fallu un moment pour comprendre.
Mais la suite est une véritable boucherie. Dans le brouillard de la drogue, Freeze et Ali quittent l'appartement. Mais à leur retour, le corps de leur victime est toujours là. Alors il les déshabille et l'arrose d'un liquide genre pour déboucher les canalisations. Puis il s'empare d'une scie et découpe les jambes de leur victime. « Je venais de m'enfiler 17 doses d'héroïne d'affilée », racontera Alig. « C'était comme dans un dessin animé des Looney Tunes. » Pour couvrir l'odeur de chair, Freeze vide une bouteille de parfum Éternité dans la salle de bain. Oui, Éternité. Puis il récupère un grand carton dans la cave et les deux meurtriers y entassent les restes de leur victime. Ensuite, eh bien, le carton reste là, dans le salon, tandis que la vie des Club Kids continue. L'un d'eux, sur le Meastro, raconte.
Je me souviens, j'étais chez Michael et j'ai posé mon cocktail sur cette boîte. Et Michael, il portait les bottes d'Angel. Et il était là, les jambes croisées, assis en face de moi, avec les bottes d'Angel aux pieds. Et il me disait, Astro, qui est-ce qui n'est pas là? Qui est-ce qui n'est pas là, Astro? J'ai répondu, j'en sais rien, Michael. Et c'est quoi cette odeur immonde dans l'appart? Et dans la boîte sur laquelle j'avais posé mon cocktail, il y avait le corps d'Angel.
Au fil des jours, l'odeur devient en effet si insoutenable que Freeze et Alig finissent par descendre le carton dans la rue. Mais pour aller où? Toujours défoncés, les deux garçons hailent un taxi et expliquent au chauffeur qu'ils transportent juste de la vieille vaisselle sale. Moyennant quelques billets verts, le taxi accepte de les emmener à quelques rues du Limelight, au bord de l'Hudson River. Là, Alig et Freeze jettent l'affreux cercueil dans l'eau en espérant qu'il coule à pic. Sauf que les deux pieds nickelés ont oublié de percer les trous dans la boîte afin qu'elle sombre, ce qui est ballot. Et de fait, la boîte se met à dériver lentement sous leurs yeux. Dans les semaines qui suivent, Michael Alig, lancé dans une spirale d'autodestruction, confesse son crime à plusieurs de ses amis avant d'expliquer qu'il s'agit d'une blague. Comment savoir avec lui? Mais la rumeur enfle. Lors du tournage du documentaire Party Monster de Shockumentary, censé raconter les exploits des Club Kids, Michael Alig laisse échapper ces mots.
He was a copycat.
C'était un copieur.
He was one of those copycats.
C'était un de ces copieurs qu'on déteste. Alors, on l'a tué.
I killed Angel and...
J'ai tué Angel et... Pardon.
That's the kind of thing that gets
c'est le genre de truc qui me fout dans la panade.
Le 25 juin 1996, le journal local de Village Voice consacre sa une à la rumeur dans un article intitulé « Le roi des Club Kids, Michael, a-t-il vraiment tué Angel Melendez ?» Ou bien est-ce un canular ? Problème. Aucun corps n'a officiellement été retrouvé et la police refuse d'aider la famille d'Angel. Alors, son frère se résout à placarder dans New York des portraits du jeune homme, ses ailes blanches sur le dos, avec cette supplique en lettres capitales, « Avez-vous des informations ?» La famille d'Angel l'ignore, mais la réponse s'est échouée 2 mois plus tôt sur les rives de Staten Island, à l'entrée de la baie de New York. La veille, une terrible tempête s'abat sur la côte Est. Un groupe de gamins se promène sur la plage à la recherche de quelques trésors rejetés par l'Atlantique. Et soudain, les gosses aperçoivent un grand carton échoué là, sur le sable. Ils s'approchent, triturent le scotch qui scelle la boîte. Le cri qu'ils poussent est à la hauteur de leur vision d'horreur. Au fond de la boîte, ce sont bien des restes humains putréfiés. Il faudra attendre le 2 novembre 1996 pour qu'ils soient formellement identifiés comme appartenant à André Melendez, alias Angel, 24 ans, tué par Michael Alig et son colocataire. Jugés à l'automne 97, les deux jeunes gens plaident coupables. Et le 1er octobre, ils sont condamnés pour meurtre à une peine de 10 à 20 ans de prison. Freeze passera 12 années derrière les barreaux, Michael Alig 5 de plus. Quand il ressort, en 2010, il redécouvre un New York privé de ses tours jumelles, mais aussi aseptisé et comme disneyfié. Fini le Times Square des prostituées, place aux publicités géantes et aux hordes de touristes qui peuvent désormais circuler sans crainte. Rudolph Giuliani a gagné, et l'ancien roi des Club Kids doit l'admettre. Il lui a fourni la meilleure des excuses pour mettre fin à cette parenthèse hallucinée. Michael Alig n'acceptera jamais le passage à cette nouvelle ère. Le 24 décembre 2020, il meurt d'une overdose dans son appartement de Manhattan à l'âge de 54 ans. Reste son héritage, malgré le meurtre sordide qu'il a commis. De John Galliano à la chanteuse Björk, en passant par Lady Gaga, on ne compte plus les artistes inspirés par les Club Kids, véritables étoiles filantes qui ont illuminé le ciel new-yorkais avant de replonger dans la nuit.
France Inter. Affaire sensible. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, les Club Kids dont nous parlons avec notre invitée Apolline Bazin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste indépendante, spécialiste des cultures LGBT et autrice du livre intitulé Drag, un art queer qui agite le monde aux éditions EPA. Alors, vous consacrez plusieurs pages de votre ouvrage aux Club Kids, justement, qui ont été un peu oubliés, y compris aux États-Unis. Pourtant, ils ont laissé une trace importante hein, dans la culture LGBT et même dans la culture en général.
Oui, tout à fait. Alors, quand même, ils ont, il y a une certaine mémoire, notamment parce que dans ce qui concerne le monde du maquillage, c'est vraiment quand même une petite révolution. Si les Club Kids ont pu faire des looks aussi marquants, c'est parce que, en fait, c'est leur naissance correspond aussi à l'essor de la marque MAC Cosmetics et que c'était des possibilités, voilà, des nouvelles possibilités de couleurs, d'aplats. Et ça, c'est vraiment resté. Donc, les personnes du monde du maquillage, du monde de la mode, connaissent quand même bien, ou en tout cas finissent par retomber sur des archives quand ces personnes cherchent des inspirations. Il y a aussi, en fait, tout simplement, en fait, c'est intéressant, il n'y a pas vraiment de transmission. Les cultures LGBT et les cultures de la nuit, elles ne sont pas si facilement accessibles. Mais, en fait, à travers le monde, vraiment dans des régions très différentes, pas forcément aux États-Unis, il y a des jeunes personnes qui vont avoir une approche du drag proche du Club Kid par rébellion,
Aujourd'hui,
oui, tout à fait. Oui. Dans mon livre, justement, j'ai rencontré, par exemple, une personne qui s'appelle Veida Chimi, qui est drag queen et qui a commencé par le Club Kid, qui est brésilienne et qui vient d'un tout petit village, d'une petite ville au Brésil, et qui en fait a commencé à créer des looks monstrueux, avoir cette approche DIY avec ce qu'elle trouvait, parce que voilà, c'était une manière de se débarrasser de la violence, du harcèlement qu'elle subissait. Et en fait, c'est comme ça que beaucoup de personnes en fait finissent par découvrir les Club Kid. C'est parce qu'il y a un geste en fait qui reste de rébellion qu'on retrouve quand on est en situation d'oppression.
Rébellion contre quoi ?
Rébellion contre la norme, contre la société hétérosexiste, puisque voilà, le système de genre, quand on est une personne queer et qu'on a voilà, une expression un peu différente, qui n'est pas dans la masculinité dominante ou la féminité conventionnelle, et ben, voilà, on dénote, et quand on dénote, on se fait souvent taper dessus.
Oui, et on rappelle quand même à quel point il était difficile d'être homosexuel, par exemple, dans les années 80, combien de drames familiaux, combien de personnes n'osaient pas le dire, leurs parents sous peine de rupture. On a fait des progrès, hein, heureusement, c'était horrible.
Oui, tout à fait. Alors, heureusement, il y a quelque chose qui ont avancé, ce qui fait que, par exemple, maintenant, quand des personnes qui revisitent l'héritage des Club Kids le font avec, justement, un accent qui peut être mis plutôt sur la partie positive, la partie mode, maquillage, amusement. Et ce qui fait que, par exemple, il y a un collectif aujourd'hui qui anime la scène parisienne, qui s'appelle la Kindergarten, qui organise des soirées inspirées par les Club Kids, mais c'est très bon enfant. On est vraiment dans la partie drôle du cirque de la nuit. Oui. Et pas la partie sinistre là qu'on vient d'explorer.
Voilà, et qu'on va explorer encore maintenant avec le meurtre d'Angèle, qui a forcément terni l'héritage. Revenons-en au fait, Michael Alig et son colocataire auraient pu avouer tout de suite la mort d'Angèle et plaider la légitime défense. Ils ont fait tout le contraire, comment on peut l'expliquer ?
Alors il y a la défense, déjà ça a bien été dit,
ouais, bien sûr.
Mais surtout en fait en 95, Alig, donc le vent tourne dans la nuit new-yorkaise, Giuliani a voilà, commencé son opération un peu place nette. Gassien, en fait, Peter Gassien, qui est donc le propriétaire du Limelight, a licencié Michael Alig. Après, en fait, il l'a envoyé plusieurs fois en cure de désintoxication. Ça ne prenait pas. Il décide de se séparer du Club Kid en chef. Donc, on est sur un moment où voilà, le vent tourne pour lui. Donc, en fait, avouer, c'est avoir plus d'ennuis. C'est quelque part signer la fin d'une époque, admettre que les choses doivent s'arrêter, et quand on n'est pas lucide, quand on est addict, qu'on a besoin de d'argent, il y a plein de raisons qui font qu'on dissimule.
Le discernement n'est plus le même, c'est clair. Et pourquoi les amis d'Aline n'ont pas dénoncé, ils étaient sous emprise à l'époque, hein. Une artiste qui faisait partie des Club Kids a même évoqué le meurtre dans une chanson, ça paraît fou.
Alors, plus que de l'emprise, bon, c'est sûr, c'est une vie de bande. Il faut se représenter que c'était quand même effectivement un refuge. Il y a l'envie d'en être, il y a la célébrité, mais il y a aussi effectivement le fait qu'on se trouve des weirdos, des bizarres comme soi, qu'on est des gens qu'on n'avait pas ailleurs. Donc, il y a vraiment une vie collective autour des Club Kids. C'est aussi une vie économique au bout d'un moment. Voilà, ça a bien été décrit aussi. Donc, en fait, si on dénonce quelqu'un, si le chef a des ennuis, toute la famille a des ennuis.
Ouais.
Et en fait, c'était ce qu'il faut comprendre. C'est que les Club Kids, c'est un peu des proto-influenceurs. Il y avait vraiment toute une culture médiatique. Il y a les interventions en talk show, mais ils avaient aussi leur propre publication, leur fanzine. Il y a quand même eu 37 numéros. Le nom m'échappe là, mais c'est quand même quelque chose de publier autant, d'être autant présent, d'avoir développé en fait quelque chose d'un peu complet. 360, il n'y avait pas Instagram, mais voilà, tout ce qui était disponible, ils et elles l'ont vraiment bien, bien utilisé pour se faire connaître. Donc, une chanson, forcément, tout devient matériau. Il y a un petit côté dans cette chanson de Screaming Rachel, un peu Where is my mind de Pixies, c'est un peu vraiment la complainte de on sent qu'il y a un souci de non mais là c'est pas possible, ça va vraiment trop loin, mais tout pouvait potentiellement être récupéré parce qu'ils avaient leurs propres médias et c'est l'illustration de ce qu'ils ont créé quelque part.
Et en 2003, les cinéastes Fenton Bailey et Randy Barbato ont réalisé le biopic Party Monster avec le célèbre acteur Macaulay Culkin dans le rôle de Michael Alig. Est-ce que le film a été un succès ?
Il me semble, puisque c'est comme ça que beaucoup de personnes connaissent l'histoire finalement.
Oui.
Donc il y a un
succès avec Affaires Sensibles aussi maintenant.
Exactement, voilà. Il y a un succès de transmission. C'est l'adaptation d'un livre. C'est l'adaptation du livre de James St. James, de Disco Bloodbath. Pour Fenton Bailey et Randy Barbato, en fait, qui ont connu ces soirées-là, c'est encore une fois recycler des histoires qu'ils ont connues. Ce sont aujourd'hui Fenton Bailey et Randy Barbato, on les connaît comme les cofondateurs de World of Wonder, qui est la boîte de production d'une petite émission qui s'appelle Drag Race. Donc tout ce petit monde, en fait, c'est connu à une certaine époque, et a fait partie de ces soirées. Donc, ça participe aussi quelque part à leur propre mythe.
Bien sûr.
Il me semble.
France Inter. Affaires sensibles.
Apolline Bazin, on l'a dit, Michael Halig a purgé une peine de 17 ans de prison. Il est ressorti en 2014. Est-ce qu'il a tenté de reprendre une carrière publique ?
Eh oui, il a osé, chose qui ne semble pas évidente quand on connaît les détails du crime. Mais oui, Halig a été très vite... Bon, déjà, ça a été un événement médiatique, sa sortie de prison. Tous les journalistes qui connaissaient l'histoire se sont un peu battus pour l'avoir. C'est le New York Times qui a eu la première interview. Ce qui pose quand même aussi deux, trois questions sur comment on aborde ce genre de personnages. Mais donc, en prison, Halig a peint. Donc, il a très vite monté une exposition. Il a tenté de lancer une marque de vêtements. Il a tenté de reprendre les soirées. Il a aussi créé une espèce de parodie de talk show sur YouTube qui s'appelle le Pee-wee Show avec un de ses anciens, avec Ernie Glam, un de ses anciens club kids de la grande époque. Mais tout ça n'a pas vraiment pris. Et comment s'en étonner ? Il y a quand même un certain malaise à voilà se dire que...
Oui, il y a eu un meurtre.
Voilà. Une fois la peine purgée, la fête peut recommencer. Pas vraiment. Voilà, c'est une question qui hante l'actualité. Qu'est-ce qu'on fait de personnes qui ont eu un certain talent, qui voilà peuvent, une fois ressorties de prison, potentiellement reprendre une carrière ? Est-ce que c'est moral ? Est-ce que c'est éthique ?
On connaît un exemple en France. Hein.
Exactement. Voilà. Je pensais bien sûr à la question de Noir Désir.
Bien sûr. Aujourd'hui, on trouve des blogs et des comptes Instagram consacrés aux Club Kids. Vous comprenez la nostalgie pour cette époque qui était quand même violente. Et puis alors, violente. Et en plus, le sida. Donc ça renvoie pas vraiment une nostalgie. Et pourtant.
Ben oui, je pense que ça peut se comprendre parce que en fait, quand on raconte des tranches d'histoire culturelle de nuit, il y a toujours un peu quelque chose de ah, il fallait en être. Donc toutes les grandes périodes de la nuit peuvent connaître ce phénomène de nostalgie similaire. Après, c'est un peu par vague. Voilà, il y a plus ou moins une mythification de ce qu'ont pu être les grandes heures de la disco, ce qu'ont pu être les grandes heures des raves en Angleterre. Donc il y a toujours des nostalgiques de ces époques-là. Parce que la nuit, c'est éphémère. Et là, on a quand même déjà pas mal d'archives, mais ça reste quand même des choses qui sont très... voilà, c'est pas comme un film, on peut pas le regarder des années et des années après. Après, le contexte, en fait, tout le contexte culturel autour de cette histoire... je veux dire, on l'a, mais pas forcément. C'est-à-dire que se rendre compte, c'est à la fois, enfin, c'est une histoire qui est à la croisée de, effectivement, un moment de culture LGBT, puisque en 94, c'est les 25 ans de Stonewall. Il y a quand même effectivement déjà une première page un peu qui se tourne pour les militants LGBT.
Stonewall, on avait consacré une émission à faire sensible à Stonewall.
Et voilà, exactement. Donc c'est les 25 ans. Et en même temps, voilà, il y a des combats qui ont été un peu, enfin, une certaine respectabilité qui a pu, être imposée, mais ça pose d'autres problèmes dans les mouvements. Culturellement, il y a quelques films qui sortent, mais bon, l'homosexualité, les transidentités, ça reste quand même très marginal dans la culture. Enfin, ça change au tournant justement 94. Mais au moment où Halig commence, fin 80, c'est très...
C'est une marginalité totale.
Ouais, voilà, ça reste quand même vraiment le ghetto, quoi.
Et alors, ce sont des lieux de rencontre, peut-être assortis de vagabondage sexuel, je ne sais pas. Il y a le sida en même temps. Ça, c'est une chape de plomb terrible en plus. Surtout sur cette communauté. Souvenez-vous, en France, certains esprits mal intentionnés parlaient de cancer gay.
Oui, bien sûr. Alors, le coup sur la nuit, il tombe vraiment à autour de 87. Genre, enfin, vraiment fin 87. C'est vraiment fin 80 quand il y a à la fois, c'est plein de boîtes qui ferment parce que, voilà, l'épidémie fait des ravages. Ça se retrouve vraiment, parce que là il y a un moment de panique, on sait rien sur l'épidémie. Mi-90, avant justement la chute d'Halig, il y a une vague où les gens ressortent un peu, parce qu'on a un peu plus d'informations grâce au travail acharné des militants, vraiment il faut le dire. L'État américain n'a absolument rien fait, l'État français pas beaucoup non plus. Les gens ressortent un peu. Et le sida, en fait, il va surtout avoir un effet. Ça, c'est quelque chose qui n'apparaît pas tout de suite, mais en fait, une des conséquences, c'est aussi que ça participe à la gentrification de New York. Et l'autrice Sarah Schulman, qui est une militante et écrivaine qui notamment a milité à ACT UP, le raconte très bien dans La gentrification des esprits. En fait, quand les populations marginales meurent, leurs appartements sont remis en vente ou remis en location à d'autres populations à des prix beaucoup plus élevés. Donc en fait, les morts...
La gentrification, c'est ça.
Exactement. C'est littéralement sur les cadavres du sida que le New York gentrifié a pu se construire avec des populations upper class qui peuvent venir s'installer et qui changent toute la géographie, toute cette faune de downtown, de Manhattan. On la retrouve plus parce qu'elle est à la fois elle est chassée par la maladie, mais elle est aussi chassée économiquement.
Alors, le sida, la drogue, la violence, tout ça a décimé les Club Kids. Mais l'un des membres s'en est très bien tiré, il est devenu mondialement célèbre, s'il s'agit de RuPaul. Parlez-nous de lui.
Alors, RuPaul. Oui, RuPaul a fait la fête avec les Club Kids. Alors, RuPaul a quand même, c'est intéressant. C'est rétrospectivement, est-ce que RuPaul a toujours eu une certaine distance ou est-ce que c'est quelque chose qui s'écrit rétrospectivement, en tout cas dans son dernier livre. Il écrit qu'il n'a jamais vraiment apprécié Michael Hallig. On pourrait lui donner ce crédit-là. RuPaul est quelqu'un donc qui a eu le même désir, en tout cas qu'Hallig, de percer à New York et qui a fait entre la moitié de le mi-temps 80 et le mi-temps 90 plusieurs allers-retours entre Atlanta et New York, parce que ça a été difficile de s'installer. En tout cas, RuPaul était ami avec des personnes qui ont travaillé activement avec les Club Kids, Larity et Laoma Van Zandt, qui présentaient le concours Body des Club Kids. Au moment, en fait, où tout se casse la gueule pour Michael Hallig et les Club Kids, RuPaul a connu un premier pic de sa carrière. En fait, c'est quelqu'un qui a eu un rythme de vie quand même comparable aux Club Kids à un moment, beaucoup de sorties en boîte, beaucoup de drogue. C'est quelqu'un qui a commencé à fumer de la weed assez jeune, mais qui comprend que son personnage un peu punk avant ne va pas l'amener, son personnage punk de l'époque ne va pas l'amener très loin, ni le rythme de la nuit. Donc il y a un tournant qui s'opère et c'est ce qui fait que RuPaul a pu percer, c'est qu'il y a eu un changement et un changement de mode de vie aussi.
Et alors, aujourd'hui, les drag queens sont de plus en plus visibles. On se souvient du spectacle d'ouverture des JO de Paris en 2024, où leur présence a été très remarquée. Cette culture devient-elle grand public ?
Oui, on peut le dire, et c'est très bien que tout le monde puisse découvrir ce que c'est le drag, parce que ça amène une ouverture justement sur les cultures LGBT, leur histoire, qu'elle soit politique ou artistique. Mais après, il reste toujours différentes scènes. C'est pas le drag qu'on voit à la télé, c'est une petite partie, et il y a toujours des scènes qui apparaissent, des scènes comparables au Club Kid.
Il nous reste quelques secondes pour s'intéresser à Problématique, c'est un nouveau média en ligne que vous êtes en train de lancer, qui sera consacré aux marges sociales, ce qui rejoint notre sujet des Club Kids. On y trouvera quoi en quelques
secondes ?
Exactement.
Alors Problématique, c'est un média queer pour dégager l'horizon que je lance avec Léane Alestra et Aria Meroni. C'est un média qui va traiter de tout sujet, puisque les marges sont souvent confinées à la spéciale, au sujet qu'on leur considère être leur spécialité. Et là, l'idée, c'est de pouvoir mettre en avant les perspectives des marges sur tous les sujets de société, tous les sujets politiques. Donc, on trouvera aussi bien... Alors, on a des spécialités, moi, la culture, d'autres, mes collègues, des sujets plutôt politiques ou liés aux mouvements sociaux. Mais on veut pouvoir proposer des analyses sur l'actualité internationale, sur l'économie, Ouvrir un peu de nouvelles possibilités dans cette époque qui en a désespérément besoin. Et Problématique, on est en campagne de dons jusqu'à la fin de la semaine prochaine. Donc venez nous soutenir sur Ulule pour en faire un beau lancement.
Bien, merci, ce sera le mot de la fin. Merci à Pauline Bazin. Au revoir.
Merci beaucoup.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, les Club Kids, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Corentin Rouchy.